Par contre, si je travaille sur des questions d'éducation ou sur d'autres questions, ça peut devenir tout à fait intéressant. Et par exemple, l'exemple de Josh hier sur les États-Unis, si je veux travailler sur la question des droits économiques, sociaux et culturels, j'ai au contraire intérêt dans un État qui n'a rien ratifié et même qui nie formellement l'existence d'un droit fondamental sur des questions économiques et sociales. Ça, c'est liberté totale, point, il n'y a pas de droit en la matière. C'est tout le débat autour de l'Obamacare qui a eu lieu. Donc, on voit que les choses évoluent aussi aux États-Unis, même au niveau interne. Mais on voit bien que le premier débat, il est politique. Et deuxièmement, j'ai tout intérêt, au contraire, à amener cette question au niveau international, à utiliser une pression internationale, parce que si les États-Unis veulent être une première puissance, ils se doivent de répondre à des questions à l'extérieur. Ils ne peuvent pas y échapper. Et donc, l'EPU devient, au contraire, quelque chose de très important dans ma stratégie. Même avec une simple approche thématique. Et en plus, ensuite, en tant que militants de droits fondamentaux, nous avons tous, et ça c'est la deuxième approche, nous avons tous un intérêt à ce que cet examen périodique universel puisse être un véritable bilan global. Vous allez voir ensuite le même dia en anglais. Puisse être un débat global. Et c'est là que c'est important d'essayer d'avoir une coalition nationale, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une cohérence dans ce bilan. Parce que s'il y a 25 bilans différents, il est évident qu'on n'a pas fait passer le message. Donc il y a un véritable enjeu à ce niveau-là. Et de pouvoir atteindre le grand public. L'EPU a des capacités de pouvoir mobiliser le grand public que n'ont pas les débats spécialisés entre spécialistes des droits économiques ou des questions de droits de l'enfant, qui sont ceux que l'on va avoir avec les comités conventionnels. Comités conventionnels qui sont faits en grande partie d'experts du domaine. Et donc, on peut avoir en face des experts gouvernementaux et des experts de la société civile. Et c'est extrêmement important. Ce n'est pas le même débat que celui qu'on doit essayer de développer avec l'examen périodique universel. Et donc, c'est ainsi qu'on peut avoir ensuite une véritable influence. C'est l'objectif, c'est un mécanisme, c'est un cycle. Là, le terme de cycle est tout à fait approprié, d'avoir une influence sur l'examen. Donc, en anglais, je répète bien, c'est le fait qu'à partir d'une approche thématique, eh bien, évidemment, on doit trouver la bonne procédure. L'EPU peut en faire partie, donc ce n'est pas à exclure, mais ça peut très bien ne pas être une priorité, c'est logique. Par contre, pour tous les militants, il est important qu'ils puissent... Ce qui est intéressant avec l'EPU, c'est que ça permet de développer une compréhension et une culture des droits fondamentaux dans le pays. Et plus on arrive à développer ces cultures, plus toutes les autres thématiques spécifiques sur lesquelles on veut travailler auront des capacités d'ancrage, auront des capacités d'attention, d'attractivité plus forte. Quand vous essayez de parler des droits de l'enfant dans une situation où on n'est même pas convaincu qu'il existe des droits fondamentaux pour l'individu, le message ne va tout simplement pas passer. Il faut d'abord qu'on ait compris que tout individu, effectivement, a des droits fondamentaux par rapport à des autorités, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'ensuite, cette conception, on peut l'étendre aux enfants. Sinon, alors on se retrouve avec le fameux discours qu'on a entendu pendant très longtemps sur la question des droits de l'enfant, et je crois que maintenant il a quand même diminué, qui est « Ah, vous faites de l'enfant un enfant roi, c'est le privilège de l'enfant, vous êtes en train de détruire la société ». Ça, je l'ai entendu souvent quand je travaillais sur la question de la Convention des droits de l'enfant. Donc, bien entendu, on a l'impression qu'on détruit la société si on considère que tout est hiérarchisé dans la société et il n'y a pas de droits fondamentaux, vous avez un pouvoir suprême, le reste doit obéir. Bon, les droits de l'enfant n'ont pas leur place là-dedans. Donc, à la base, il doit y avoir une compréhension de ces droits fondamentaux. L'EPU est un mécanisme qui permet d'avoir ce débat à une échelle plus large et qui, bien entendu, va aider le travail qu'on peut faire dans nos différents domaines. Alors, pour bien comprendre, on avait vu ça le premier jour, donc je me permets de très rapidement rappeler, juste à titre technique, les différentes étapes de la procédure, les fameux rapports. Le travail dans le groupe de travail, la Troïka, le conseil et ensuite la résolution. Ça, c'est les fameuses grandes étapes. Maintenant, vous les connaissez par cœur, elles ont été familières. Il faut bien comprendre que le débat national, il se situe là, en amont. C'est là qu'il doit y avoir le véritable débat national. Et donc, en gros, il doit se situer à peu près dans l'année qui précède. C'est pour ça que quand certains disent « oui, mais il faut vite faire les délais, on va faire les 6 mois », oui, bien entendu, c'est très important, parce que ça permet de planifier. Et quand si on doit travailler dans l'urgence et qu'on n'a pas pu faire un débat national, il ne faut pas du coup se dire « ah bah tant pis, on a raté le coche, on ne fait rien ». Non, il faut faire le travail classique que l'on fait, comme on a pu en parler hier. Là, ici, si on veut avoir un certain débat national, eh bien effectivement, il faut le faire beaucoup en amont. Et le rendez-vous de Genève, il sert justement à cela, c'est-à-dire à être un rendez-vous, et un rendez-vous régulier. Et donc on se prépare pour Genève, non pas parce que Genève c'est particulièrement important, mais parce que ce rendez-vous nous permet de faire le point, et ensuite, une fois qu'on a fait le point chez nous, on peut essayer d'aller en discuter avec quelques autres. Donc, ça permettrait d'arriver à temps, donc d'être suffisamment préparé, mais plus que ça, ça permet bien entendu, dans les discussions, on l'a bien vu hier, comment c'est pas toujours évident de pouvoir convaincre les États de faire passer telle ou telle information, si on peut présenter un débat national, il est évident qu'on sera plus convaincant, parce qu'on peut donner cette vision générale. Je me suis déjà trouvé plus d'une fois devant un délégué qui m'écoute, trouve très intéressant ce que je dis sur tel ou tel pays. Bon, évidemment, si ce n'est pas le mien, c'est encore plus compliqué. Mais il se demande, bon, ça, c'est peut-être un problème qui existe. En quoi est-ce que c'est un problème vraiment important? Bonne question. Il s'avère qui m'a rencontré, moi, mais c'est le hasard. Ce n'est pas forcément le fruit d'une évaluation globale. Exemple qu'on a pu avoir dans les coalitions d'une coalition suisse. On a eu tout un débat, par exemple, quand on a fait le premier examen sur le problème du suicide des jeunes en Suisse. Alors là, on a déjà eu un problème parce que ce n'était pas évident que certains considèrent que ce soit un problème de droit de l'homme. Mais ce lien a pu être fait parce que, en fait, ceux qui s'étaient attaqués à cela étaient des anciens militants des droits fondamentaux. Donc évidemment, ils ont immédiatement fait le lien, eux. Si ça n'avait pas été le cas, ils ne seraient même pas venus. Donc il y a un côté hasard qui peut se faire dans ce genre de sujet qui ressort. Ce n'est pas forcément le fruit d'un véritable bilan. Si on peut démontrer qu'il y a eu tout un processus avec un vrai bilan, qu'on parle au nom de la société civile, qu'on parle de quelque chose de global, eh bien là, on a effectivement beaucoup plus de possibilités de faire passer le message, de répartir les différentes interventions et de pouvoir avoir un impact sur l'examen. Et donc, bien entendu, de faire passer le message plus efficacement.